Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevons Francis Le Piouffle. Francis, vous êtes déjà passé dans cette émission. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler spécifiquement de votre dernier ouvrage, Carambar de l'enfance. Le titre, c'est déjà tout un poème, si j'ose dire. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour nos auditrices et nos auditeurs, qui êtes-vous ?
Ah, Francis Le Piouffle, donc j'habite le centre Bretagne, que j'ai pratiquement toujours habité, au même lieu finalement d'habitation que mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc effectivement, on peut appeler peut-être ça un breton de souche du centre Bretagne. Voilà, avec deux origines culturelles, une galaise et une bretonne, ce qui fait un bon croisement, je pense, pour une identité bretonne. La langue galaise, que je possède toujours, que j'ai exercée, et dans mon jeune âge, mais que j'ai conservé. Et la langue bretonne dans laquelle j'ai baigné, mais je n'ai pas appris le breton. Ma mère était bretonne et parlait le breton et l'a parlé jusqu'à l'âge de 36 ans, en continu, ne parlant que très peu le français.
Alors voilà. Quand on parle de croisement, effectivement, on l'applique des fois dans d'autres circonstances, mais là,
oui.
C'est le résultat d'une hybridation formidable, et sur le plan linguistique, et sur le plan mode de vie aussi.
Oui.
Vous avez gardé ces coutumes, les traditions, mais tout ça dans le bon sens du terme. On n'est pas dans le côté nostalgique, on est
dans le
côté avenir. Alors, à un moment donné, vous avez été enseignant et puis vous êtes venu à l'écriture.
Oui, alors c'est quelque chose, c'est une écriture dont je me réjouissais de pratiquer depuis longtemps, parce que comme je le raconte dans mon dernier ouvrage, Carambar de l'enfance, j'y ai donné en épilogue comment je suis arrivé à l'écriture, et donc c'était en tant qu'enfant, collégien même, où j'avais envie d'écrire des choses, mais des choses que je pouvais raconter, car le monde était tellement petit qu'on demandait de faire de l'imaginaire à partir de ce qu'on ne connaissait pas, donc ça m'était impossible. Et donc j'avais trouvé des travers pour arriver à raconter quelque chose, et c'est grâce, je dirais, à un professeur de collège qui m'a encouragé, et là j'ai perçu qu'effectivement qu'on pouvait inventer des mondes, qu'on pouvait inventer des histoires, et créer surtout, créer à l'infini à partir des mots qui nous étaient donnés. Voilà, donc c'est dans l'épilogue de ce dernier ouvrage, Carambar de l'enfance, dont je parle j'ai parlé de flots, comme des ruisseaux, des petites rues, des rivières qui viennent à notre pensée et qui se concrétisent par des mots sur la page, petit à petit. Il n'en faut pas trop, bien entendu, autrement c'est comme les rivières, ça déborde et ça n'a plus de sens. Donc voilà, je raconte ça un petit peu dans le dernier passage de cet ouvrage.
Et cet ouvrage, Carambar de l'enfance, le titre, d'une part, est génial, il donne envie, le bonbon lui-même, mais pas que. Derrière ce titre, il y a aussi toute une vie. C'est une vie de quelle époque ?
Alors, c'est la vie de l'enfant et de la société vers 1960, particulièrement. Hein, donc c'est tout un autre monde qui a disparu, avec les saveurs, bien sûr, le carambar, bien sûr, mais il n'y a pas que le carambar, il y a toutes nos connaissances de l'époque, nos découvertes de l'époque qui nous donnent justement ce petit sucre qui revient à la mémoire, la première découverte de la mer. C'est exceptionnel. La découverte de la pomme d'orange dans le sabot que l'on avait placé, hein, tout ça, ça donne des souvenirs très, très précieux. Alors, quelqu'un m'a dit, mais ce n'est pas forcément l'enfance. Non, ce sont les moments les plus grands, les étincelles de cette vie de l'enfance qui n'était pas forcément réjouissante, mais qui ont gardé justement ces lueurs que l'on peut voir encore. On ferme les yeux et on retrouve ces lueurs. Alors j'ai voulu les partager, Hein, ces lueurs de la découverte de la mer, la découverte de la télé, la fameuse boîte qui était arrivée, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte ? Et je raconte comment on pouvait la découvrir. Alors, ce sont des souvenirs personnels, mais beaucoup de gens disent, mais c'est nous, nous on a eu la même chose. Donc, c'est un peu des souvenirs universels que j'ai voulu faire découvrir. Alors, j'avais une petite arrière-pensée quand même, parce que c'est, en donnant ces carambars de l'enfance, c'était de suggérer aux parents, aux grands-parents, qu'il fallait en faire, les partager avec les enfants, les petits-enfants, pour qu'ils aient une connaissance de ce monde, et en partageant un petit peu, même si les petits-enfants disent « Oh, ça fait loin », mais quand même, ça ravive le souvenir et ça permet de faire un lien dans les générations. Là, il y avait ça aussi en arrière-pensée.
Oui, tout à fait. Alors, quand on parle lueur, étincelle, c'est quand même à chaque fois le bonheur de ceux qui peuvent se trouver justement derrière cette lueur.
Et
qu'est-ce qui se cache dans des yeux fermés en réalité ?
Oui, tout à fait. C'est derrière les yeux fermés. Il suffit de les fermer un petit peu et on retrouve toute cette vie, la chaleur. Finalement, une chaleur familiale, même si c'était difficile, une chaleur d'un moment, voilà, qui a duré combien de temps ? Qui a duré peut-être une minute, deux minutes. Mais c'est cette étincelle-là qui permet finalement de construire le souvenir et de reconstruire la vie antérieure et de la partager avec ses enfants, ses petits-enfants. Voilà. Parce que, bon, il y a beaucoup d'histoires que je racontais à mes enfants, mais ces histoires-là, ils en ont besoin aussi pour se construire au présent, ils ont besoin de connaître son passé, leur passé. S'ils ne connaissent pas leur passé, ils ne savent pas où ils peuvent aller. Et donc, pour percevoir tout l'ensemble, il faut qu'ils aient connaissance de ces fameux carambars de l'enfance, de cette société qui a existé. Hein, il y a l'histoire du cochon, bien entendu, qui est tué, la fabrication du pâté, la chasse au grillon. Ce sont des moments exceptionnels qu'on gardait, que les anciens élèves ont gardé en esprit, la découverte de la mer dont je vous ai parlé. Le jour de neige que chaque enfant découvre, et on entend dans notre mémoire les pas feutrés, tout le monde qui est feutré tout autour. Il y a un autre moment, c'est quand on entendait les premiers avions qui passaient, qui ronronnaient le soir, dans la nuit, et on les entendait arriver. Personnellement, moi, je l'attendais, cet avion. Je me demandais où il allait, toujours, ce petit avion de nuit. Alors oui, il y a ces jours de neige, le premier ballon, le ballon multicolore qu'on a pu recevoir, le rêve de nuit, la flamme curieuse, ah oui, c'est des tentations quelquefois qu'on a, les parfums d'un autre monde, les parfums des poulaillers, les parfums de vie. Alors le sacrifice, ah oui, l'eau de vie. Pourquoi l'eau de vie ? Hein, il y a un intitulé d'une histoire, une nouvelle. C'est l'eau de vie pour un sacrifice. Mais oui, parce que le tueur, le seigneur, mais qu'on pouvait voir avec un S-E-I, mais quelquefois, bien, avant d'être le seigneur, il était le seigneur S-A-I-N-G-N, celui qui saigne le cochon dans une forme de tradition. Et pour se remettre d'aplomb avant de commencer le travail, il lui fallait sa fameuse eau de vie pour faire mourir l'autre. Mais il y a également tout le monde a encore ce souvenir des pommes cuites, les saveurs des pommes cuites, mais pas n'importe où. Bien entendu, il n'y avait pas, la gazinière existait très peu, il y avait cette fameuse cuisinière au bois avec le four dans lequel les pommes cuisaient et donnaient l'odeur de cuisson des pommes. Mais bien entendu, bien souvent, ce n'était pas même pas cela, c'était le feu dans l'âtre avec une feuille de métal qui avait été récupérée quelque part à partir de vieilles boîtes et qui étaient étalées et sur lesquelles cuisaient les pommes. Et imaginez ces pommes qui s'ouvrent, qui s'entrouvent, et un petit jus qui coule, le jus de la pomme qui commence à cuire tout autour et qui donne une odeur savoureuse à toute la maison. Donc oui, ce sont tous ces bons moments-là dont je parle. Alors il y en a un autre, ce sont les moments, parce que imaginez une société réglée par le clergé, où tout le monde, bien entendu, allait à confesse. Alors j'ai redonné ce moment où chacun se lève pour aller à la chaise suivante, quand un passé à confesse, la suite des personnes, 20, 50 personnes, se soulevaient et allaient s'asseoir à la chaise suivante. Alors pourquoi aller à confesse? Ben oui, c'était tout un monde que chacun peut se évoquer à nouveau. Voilà. Alors il y a 22 histoires ainsi dans cet ouvrage que j'ai voulu partager.
Il y a un sujet très intéressant que vous avez évoqué, ce sont les odeurs et les saveurs. Elles ont été trop rarement évoquées, me semble-t-il, dans les ouvrages des années 60, où on décrit le visuel, on décrit ce qu'on voit, mais ce qu'on sent, ce qu'on ressent, c'est moins développé. Alors, sur les odeurs et les saveurs, est-ce que vous avez des cas particuliers? Vous avez parlé des pommes cuites au four,
oui,
mais il y a peut-être d'autres, d'autres histoires.
Bien entendu, la fabrication du pâté. Le pâté qui était préparé de main de maître par les femmes, hein, après avoir nettoyé tous les boyaux grattés, etc. Et ensuite, il fallait préparer les andouilles, mais il fallait également préparer le pâté. Et le pâté était confectionné, imaginez, la saveur, l'odeur de viande, qu'on sale, qu'on poivre. Mais par la suite, au fur et à mesure de la cuisson, se développe tout un arôme et qui emplit la pièce, une pièce unique, bien entendu, et tout était cuit à même la grande cheminée. Alors ça, c'est pour une odeur. Mais il y a une autre odeur, c'est celle des poulaillers, que j'ai trouvé très, très chère à nos cœurs, parce que chacun des enfants pouvait aller chercher les œufs éparpillés dans les nids, et dans ce poulailler, il y avait ces odeurs particulières de fiente, bien entendu, de poule, de plume, etc. Et il y a un comité de lecture à Loudiac, qui m'a invité justement à parler de mon livre, d'écrire la Genèse. Et il y a d'autres personnes qui ont effectivement perçu ce développement des odeurs et des saveurs dans cet ouvrage. C'est volontaire. C'est rarement fait, effectivement. On a le visuel, mais on n'a pas forcément la description des odeurs du moment.
C'est mettre à portée du lecteur des choses qu'on a ressenties et qu'on a vécues soi-même, et vous l'avez vécu comme auteur. Autant on peut faire une description, comme je disais tout à l'heure, visuelle de quelque chose, autant décrire une odeur ou une saveur qu'on n'a pas connue, ça me paraît quasiment impossible.
Je crois que c'est impossible, effectivement, parce qu'il faut avoir vraiment intégré, vécu cette odeur avec les différentes variantes et ce à quoi elle se rapporte pour pouvoir les traduire. C'est impossible, si on n'a pas connu ces odeurs, de les retraduire, parce qu'elles sont, chez nous, elles sont encore vivantes. Il suffit d'évoquer le souvenir pour à nouveau recréer l'odeur. C'est un phénomène chimique, certainement, mais on l'a, cette odeur. Et donc, il est facile de la traduire, facile, c'est prétentieux ce que je dis, facile de la traduire par écrit. Non, il faut la rechercher, il faut rechercher toutes ces composantes, justement, pour pouvoir la retraduire sur le papier. Et ce n'est pas forcément facile. Mais, bon, si j'ai réussi un tant soit peu à montrer ces odeurs, ces saveurs, peut-être que j'ai réussi quelque chose.
Vous l'avez bien réussi, parce que en vous écoutant, eh bien, je me disais que si les mots ont encore un sens, je pense que oui, c'est sans conteste ça, l'authenticité, au sens noble du terme, authentique. Perfect. On n'imagine pas, on ne brode pas, même si on peut imaginer dans d'autres circonstances, mais là, c'est l'authentique qui est remise en mots et qui est confiée au lecteur. Et du même coup, le lecteur entre dans l'authentique d'un autre temps ou d'une autre personne. Et ce n'est pas non plus négligeable, y compris pour les plus jeunes.
Tout à fait. Percevoir un autre monde au travers de toutes ses composantes, que ce soit par le toucher que l'on peut montrer, par le visuel, par les odeurs, par les différents sens que l'on a en notre possession, effectivement. C'est pas anodin. Au moins, les enfants, les plus jeunes peuvent connaître ce monde par l'intermédiaire des différents sens.
Où peut-on trouver ce livre?
On peut le trouver, alors, en Bretagne centrale actuellement, sur Saint-Brieuc, Guingamp, Loudiac bien entendu, Pontivy, Châteaulin, Lanester. Alors il n'est pas encore sur Brest à cause de la Covid, des difficultés d'approvisionnement, il devrait y être prochainement. Mais sur toute la Bretagne centrale de Saint-Brieuc à Pontivy, Vannes et dans l'autre sens horizontalement, bien sûr.
Et où peut-on le commander ?
Il suffit d'aller voir sur internet également, vous avez édition La Roche du Muson, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez le trouver même en le commandant auprès de moi-même, l'auteur, voilà.
Ah ouais. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au site www.clickandgolivre.com et qui vous amène directement vers le site où vous pouvez acheter ce livre « Carambars de l'enfance ». Et justement, sur la distribution du livre, sur les dédicaces, j'ai vu dans la presse et en mains endroits que vous avez fait comment dire, une campagne de promotion de votre livre qui est tout à fait exemplaire.
Alors c'est vrai que si on écrit un ouvrage et si une fois qu'il est imprimé, on le laisse dans le tiroir, personne ne va venir le chercher. Donc il est important effectivement de le faire connaître. Alors le faire connaître comment ? Bien entendu, il y a les marchés de Noël, il y a différents endroits, mais il faut aller directement au lieu où se trouvent les personnes, et pour le faire connaître, ce qui veut dire dans les librairies, bien entendu, dans les grandes surfaces, et ne pas avoir peur d'aller faire connaître son ouvrage, le faire découvrir. Ce sont les... Pas un lecteur ne viendra le voir dans vos placards si vous avez votre ouvrage. Non, il faut aller en faire la promotion d'une certaine manière, humblement bien sûr, hein, tout à fait humblement, mais amener les lecteurs à le découvrir. Donc par votre présence dans les librairies, dans les grandes surfaces, et ne pas s'arrêter à un mois après la sortie de l'ouvrage. On a la chance quelquefois, en allant nous-mêmes, poursuivre justement la durée de vie d'un ouvrage. Habituellement, c'est 3 mois, et en tant qu'auteur, si on en fait un petit peu la promotion, on peut faire durer un ouvrage au moins 1 année. Voilà.
Et en plus, c'est un ouvrage qui n'a pas d'époque de sortie. Bien sûr, il y a une date de sortie, il y a une promotion dans les mois qui suivent. Mais c'est en fait un sujet, comme on dit, d'ordre général et d'ordre d'un ordre qui a traversé le temps.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, ce qui est écrit à l'intérieur est valable et reste valable dans 2 mois, dans 6 mois, dans 10 ans. C'est une photographie, je dirais une photographie avec ses différentes couleurs, mais également avec ses odeurs, comme je l'ai dit, ses saveurs, qui reste. Et même dans 50 ans, il sera un témoignage finalement d'un moment de 1960 en termes de l'enfance, mais en termes de société montré dans cet ouvrage. Alors, ça n'est pas scientifique, bien entendu, hein, quand j'énonce ces termes. Non, j'ai voulu l'écrire avec beaucoup de nuances, beaucoup de cœur, je dirais. Donc, à l'intérieur, ça n'est pas un ouvrage de sociologie. Non, ce sont des moments précis donnés à voir, donnés à savourer. J'ai essayé d'être créatif. Certains diraient poète, avoir une écriture poétique. Bon, peut-être, je ne sais pas. C'est le lecteur qui dira si l'écriture lui plaît ou ne plaît pas.
Heureusement qu'on n'a pas pu.
Pour le moment, il a l'air de plaire, parce qu'on m'en réclame beaucoup.
Ouais, il plaît énormément. Mais j'allais dire, heureusement que l'humain n'est pas seulement cartésien,
oui.
Parce que la vie serait bien triste, en fait n'existerait pas. On serait réduit à ce moment-là à des numéros. Heureusement qu'il y a quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle l'humain, c'est ce qu'on appelle le cœur, c'est ce qu'on appelle aussi l'esprit. Et j'allais dire, à partir de faits réels, qui peuvent être des petits faits accessoires, en fait, sont des faits fondamentaux, ce qui donne à votre ouvrage un caractère, d'une part, universel, mais aussi qui fait rêver. qui fait rêver ceux qui n'ont pas connu. Et là, vous avez su engager le lecteur sur le chemin du rêve. C'est quelque chose d'essentiel aussi.
J'ai tenté. On peut tenter. On ne réussit pas toujours. Bon, les lecteurs ont l'air de trouver effectivement ce côté humain, ce côté affectif, ce côté cœur dans cet ouvrage. Hein, j'ai une personne dernièrement qui m'a dit « Oh, merci, c'est un régal de vous avoir lu, c'est un bonheur de vous avoir lu. » Je crois que c'était lundi dernier, lors d'une conférence que je donnais sur le Mexique, une personne est venue me le dire. Donc c'est déjà beaucoup si la personne a trouvé un moment de bonheur au travers de cet ouvrage.
Formidable témoignage. Vous parliez au début de notre entretien que vous étiez issu, si je peux dire, du croisement du gallo et du breton. Vous êtes aussi vice-président de l'Association des écrivains de Bretagne, qui aujourd'hui vient de passer le cap de ses 300 adhérents. Vous êtes un vice-président très, très actif. Et nous développons au sein de cette association, puisque l'émission « Un auteur, une voix » de Bretagne 5 est faite avec écrivainbreton.org. En cours, jusqu'au 31 mars, il y a aussi des prix littéraires. Pouvez-vous nous en dire un petit mot ?
Oui, alors parallèlement au prix habituel de Grand Prix du roman, le prix du livre en breton et le prix du livre en gallo, cette année, nous avons proposé un concours d'écriture. Alors, quelque chose d'original, c'est un concours d'écriture sur le même sujet, La fille de l'Ouest, mais avec une proposition de l'écrire, d'écrire une nouvelle, donc, en français, ou en breton, ou en gallo. Alors, si vous avez envie, c'est encore possible de l'adresser, hein, vous allez voir sur le site, vous allez voir à qui l'adresser. Alors, en résumé, c'est 2 pages, 30 lignes par page maximum, et vous allez voir sur le site, bien sûr, il y a des règles pour que ce soit bien présenté, et vous adressez cette nouvelle à la personne concernée. Mais, alors, il reste un mois. Il reste à peine un mois parce que c'est jusqu'au 31 mars 2022. Que ce soit en français, que ce soit en breton ou que ce soit en gallo, vous adressez cela à la même personne. Ensuite, chaque jury français, breton, gallo va se réunir et va déterminer donc les 3 meilleurs textes, les 3 meilleures nouvelles dans chaque langue, puisque nous voulons effectivement défendre les 3 langues. Voilà, donc vous avez jusqu'au 31 mars pour aller voir le site, regarder en quoi ça consiste et les adresser à la personne concernée. Les 3 textes seront sélectionnés, 3 textes dans chaque langue, et on demandera peut-être de lire ces nouvelles, bien sûr, parce que on peut écrire, mais c'est encore mieux de les lire, de les oraliser, on donne de l'âme au texte. Alors pensez-y, déjà en les écrivant, qu'elles seront sans doute, on demandera de les lire lorsqu'elles seront sélectionnées. Voilà.
Alors, à vos plumes tous, vous avez encore quelques jours, n'hésitez pas, mais c'est assez rapide à faire en tant que bon technicien. Français, gallo ou breton, le sujet « La fille de l'Ouest » vous est proposé par Patricia Guillemin, qui est responsable de la vie littéraire au sein de l'Association des écrivains bretons. Ainsi,
très belle idée de Patricia Guillemin, très très belle idée.
Voilà. Merci pour elle. Donc le site c'est écrivainbretonplurielattaché.org et là vous avez tous les renseignements. Alors comme vous disiez à juste titre aussi, on maintient les prix littéraires, un prix du roman, le grand prix du roman de l'AUB. On a un prix du livre en gallo aussi, et on a un prix Père Jacques Elias du livre en breton. Et là aussi vous avez tout ce qu'il faut sur le site écrivainbreton.org. Un petit mot, Francis ?
Oui, pardon. Oui, un petit mot peut-être. Normalement, le terme est échu, mais pensez, peut-être je m'adresse un petit peu à tous les bannissous, tous les éditos, tous les bannissous de Bretagne. S'ils ont donc quelque chose d'écrit avec des loups écrous en gallo, eh ben, qui nous les enveille, et qu'ils aillent, il faut qu'ils aillent vers le site, et puis ils vont s'avérer à qui l'enveiller. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir des livres en gallo, en breton, si les bannissous en ont bannissé John Chesin. Faudrait qu'ils nous les envahissent, donc en breton, gallo, ben qu'ils aillent vers, et puis on peut leur donner chaque jour encore avant de clore l'affaire.
Merci Braz, et Brazon, à Vichement, à Guis vos comptes de Jésus Braz. Francis, pour terminer l'émission, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter ?
Non, je pense que, voilà, avoir parlé du livre, de l'association de la coterie des écribous de Bretagne ou de l'association des écrivains bretons, une association dynamique. J'encourage tous les écrivains de Bretagne, ceux qui écrivent quelques mots, à aller voir justement cette association, les participants, les photos, ce que l'association peut apporter, ce que vous pouvez apporter à cette association aussi, parce que chacun peut apporter à une association. Donc allez voir et vous saurez mieux qu'est-ce que c'est que cette association des écrivains de Bretagne.
Merci Francis Le Pioufle. C'était Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous recevions Francis Le Pioufle.
Merci Michel et puis merci à Bretagne 5 pour faire partager toutes nos activités et nos ouvrages. Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.